Yacouba Cissé, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été surpris par la décision du tribunal de Hambourg sur la frontière maritime entre vos deux pays ?
Oui, quelque peu. Je m'attendais à une décision beaucoup plus équitable, mais ça n'a pas été le cas.
Pour calculer le tracé de la frontière maritime, le tribunal de Hambourg s'est basé sur le principe de l'équidistance. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait. Alors, l'équidistance se calcule sur la base d'un certain nombre de points qu'on choisit sur la côte, et qu'on appelle les points de base. Alors, une fois qu'on a défini ces points de base sur les côtes respectives des deux États, on trace une ligne de base, et c'est à partir de cette ligne de base qu'on trace l'équidistance. Donc, c'est le tracé qui va séparer à égale distance les frontières maritimes de deux États.
Et dans ce cas précis, le tribunal de Hambourg a construit une ligne dont chaque point est équidistant des deux côtes, la côte ivoirienne et la côte ghanéenne ?
Tout à fait. Mais quand vous regardez cette carte, ce tracé a tendance à rentrer dans les espaces maritimes de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette iniquité que nous avons dénoncée, mais malheureusement nous n'avons pas été suivis dans notre requête.
Et cela dit, est-ce que le principe de l'équidistance n'est pas le principe le plus neutre, le plus objectif ?
Alors l'équidistance, si vous voulez, elle part des côtes. Mais dans le droit international, ce n'est pas un principe obligatoire qui s'impose. Donc dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, à partir du moment où nous avons allégué que notre côte était concave et que le tracé de l'équidistance allait forcément rentrer dans notre projection maritime, nous avons estimé que le juge devait prendre ce facteur-là en compte.
Voulez-vous dire que le caractère concave de la côte ivoirienne aurait dû donner à vos yeux un caractère particulier à la décision des juges, c'est ça ?
Tout à fait, parce que la jurisprudence quand même est assez constante. Hein. Depuis l'affaire de la mer du Nord en 1969, et ensuite il y a eu des décisions subséquentes qui ont constaté que même une concavité, même si elle est légère, on n'a pas besoin qu'elle soit forcément prononcée, même légère, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, elle va nécessairement avoir un infléchissement sur la frontière maritime. Donc il aurait fallu que le juge déplace un peu cette ligne-là, à mon avis.
Ce qui aurait permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une souveraineté territoriale sur une partie des réserves pétrolières offshore ?
Bien sûr, c'est ça vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est un peu ça, c'est les ressources.
Et pour vous, Cissé Yacouba, cette décision, c'est un échec pour la diplomatie ivoirienne et pour l'équipe qui a plaidé le dossier ivoirien devant le tribunal ?
Non, je ne pense pas que ce soit un échec pour notre diplomatie. Nous avons négocié à fond. La décision qui a été rendue, c'est une décision judiciaire et elle n'est pas politique.
C'est la géographie qui était contre vous ?
La géographie, en principe, devait être en notre faveur. La configuration côtière devait être un élément qui devait jouer en notre faveur. Et en lisant très bien la décision de la Chambre, elle a reconnu d'abord l'existence de cette concavité ivoirienne, même si elle est légère. Et mieux, elle a reconnu que cette concavité avait un effet d'amputation sur la projection maritime de la Côte d'Ivoire. Alors, après avoir reconnu cette réalité de la côte ivoirienne, la conséquence logique que le juge aurait dû tirer, c'est d'infléchir la ligne d'équidistance, c'est-à-dire de pouvoir l'ajuster ou la corriger.
Et pourquoi le juge ne l'a pas fait alors ?
Alors, il ne l'a pas fait parce qu'il a fait une interprétation pour dire que la concavité ivoirienne n'étant pas prononcée, il n'y avait pas lieu d'ajuster la ligne d'équidistance provisoire. Alors, il l'a fait seulement à partir de deux décisions de justice, dans l'affaire Bangladesh-Myanmar.
Donc la Birmanie, oui.
La Birmanie, oui, et puis Bangladesh-Inde, où effectivement, dans ces deux arrêts, le juge a dit que le fait que la concavité ne soit pas prononcée, qu'il n'avait pas lieu d'ajuster la ligne d'équidistance provisoire. Mais vous ne pouvez pas, à partir de deux décisions, généraliser. Or, par le passé, la jurisprudence, depuis l'affaire de la mer du Nord en 1969, qui avait opposé l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, la concavité avait été un élément déterminant. Et plus tard, en 85, dans l'affaire Guinée-Bissau, la concavité a été une circonstance pertinente que le juge et le tribunal avaient pris en compte.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a deux jurisprudences. Une jurisprudence mer du Nord qui aurait dû permettre à la Côte d'Ivoire de récupérer une partie du gisement pétrolier et une jurisprudence Bangladesh qui a permis au Ghana de récupérer ce gisement.
C'est ça, tout à fait. Et puis, si vous voulez, je peux aussi évoquer l'affaire Cameroun-Bakassi où la question de la concavité avait été posée, mais le juge, dans ce cas, avait dit qu'elle ne voyait pas de concavité. Donc, elle a été logique pour ne pas modifier la ligne d'équidistance. Ça, c'est logique. Mais dès lors que le juge reconnaît l'existence d'une concavité, qu'elle soit légère ou pas, logiquement, elle devait pouvoir en tirer toute la conséquence pour modifier la ligne d'équidistance. Et je pense que la solution qui a été rendue, de mon point de vue, a manqué le test de l'équité.
Et est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire appel ?
Non, c'est une décision sans appel, malheureusement. Elle est sans appel et elle est aussi contraignante pour les parties.
Et de fait, dans un communiqué commun ce dimanche, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont engagés à respecter cette décision. Hein.
Tout à fait. Ils vont la respecter et certainement trouver des moyens de coopération. Maintenant, certainement qu'il faut réouvrir la phase des négociations politiques pour une sorte d'exploitation conjointe, comme je l'avais proposé lors de nos négociations avec la partie ghanéenne.
Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire produisait 45 000 barils jour. Si elle avait été déclarée déclarée souveraine sur ses réserves offshore, elle aurait pu espérer produire 200 000 barils jour. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Tout ce qui reste maintenant aux États, c'est de voir dans quelle mesure ils pourraient exploiter ce gisement-là. Si c'est un cas de gisement unique, qui a une structure géologique unique, en ce moment-là, les deux États pourront trouver les modalités de l'exploiter en commun. Alors vous pouvez rester de l'autre côté de la frontière pour effectuer ce qu'on appelle le forage directionnel. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité de pomper le pétrole de l'autre côté de la frontière. Donc du point de vue technique, il y a toujours cette possibilité d'envisager une exploitation en commun.
Maître Cissé Yacouba, merci.